We do biz.
We do biz.
Devenons business.
Vous avez l'infime bonheur de retrouver l'une des meilleures émissions qui rassemble les grandes entreprises et les PME sur We Do Biz. Toutes les deux semaines, Passerelle PME. Et aujourd'hui, nous avons un invité de marque. D'ailleurs, nous n'avons que des belles marques. Nicolas Baudouin, KPMG. Vous êtes associé au pôle conseil Paris et Île-de-France.
Bonjour Denis.
Bonjour Nicolas. Et vous êtes, ce qui me touche particulièrement, et puis on est dans les locaux de la Chambre de commerce, HEC 90, et nous avons une promo d'écart, ce que nous avons découvert très récemment.
Fallait le dire.
Donc c'est une émission congénitale pratiquement aujourd'hui. Néanmoins, on va parler de KPMG. Assez peu de personnes pensent à associer un grand groupe international comme KPMG au monde de la PME, et pourtant on pourrait avoir des surprises. Alors quel est le positionnement de KPMG face aux PME aujourd'hui en France?
Alors déjà, quand on parle de grand groupe international, je crois que il faut faire attention. Effectivement, KPMG est présent dans énormément de pays, mais partout dans ces pays-là, souvent il y a une légitimité très nationale.
Oui.
Finalement, en France, c'est une société KPMG SA qui est détenue uniquement par des associés français.
Oui.
Donc loin d'un grand capital international.
Oui.
En revanche, la volonté d'avoir effectivement une même qualité de service partout sur la planète. Alors, pourquoi en France parle-t-on de PME? Parce que KPMG en France est né à partir des PME.
D'accord.
KPMG, c'était à l'origine Fiduciaire de France. Et Fiduciaire de France, ça a été une société qui s'est développée sur la TPE, la PME et tardivement sur les grands groupes.
D'accord. Comment on peut répartir une activité? Alors, est-ce que c'est en chiffre d'affaires, en effectif consacré? Mais si on devait donner aujourd'hui la répartition entre l'activité grand compte et l'activité PME, et puis nous parler un tout petit peu de la part de marché de KPMG sur le marché de la PME en France, vous disiez que c'est la plus importante de tous les cabinets existants.
Alors tout à fait, si on veut parler de la répartition du chiffre d'affaires, je pense qu'on est aux alentours de 45% pour les grands groupes.
D'accord.
On est aux alentours, donc on est à 55% pour la TPE-PME. À l'intérieur de ça, je pense qu'on a aux alentours de 20-25% pour la TPE, hein, ce qui est considérable.
Oui.
Et puis évidemment, tout ce qu'on va appeler chez nous mid-market, alors qui va à la fois intégrer des PME et qui va aussi intégrer un secteur associatif sur
oui.
lequel on est très très présent,
oui.
Qui est quelquefois aussi un secteur d'entrepreneurs.
C'est clair. Alors, en ce qui concerne les différentes activités, si moi je suis une petite PME, on est d'ailleurs aujourd'hui dans un bâtiment dans lequel il y a plein de start-up, plein d'entreprises en croissance. Qu'est-ce qui m'amène chez KPMG? J'ai pas à avoir peur de pousser la porte parce que j'ai à la fois des services et des prix qui sont complètement adaptés à mon chiffre d'affaires, à ma taille, à mes moyens.
Oui, alors je pense que c'est très très important. Aujourd'hui, si on prend trois types de clients qui pourraient venir, qui sont et qui viennent chez KPMG tous les jours et qui restent chez KPMG tous les jours, on peut parler effectivement de ces entreprises qui démarrent et qui ont un vrai projet de développement, parce que ce sont des entreprises qui recherchent un accompagnement, qui recherchent un balayage du terrain à parcourir, cela avec bien évidemment des tarifs adaptés, qui sont importants. C'est un investissement également, ouais. Ces honoraires-là. Ouais. Mais finalement, c'est vrai que beaucoup des concurrents parlent de nos tarifs, finalement assez peu nos clients. Et ça, c'est toujours la bonne nouvelle. Parce que ça veut dire qu'il y a un solide équilibre qui s'est créé entre les deux. On a également des entreprises familiales d'une certaine taille, hein, l'entreprise patrimoniale familiale en France qui se développe, qui a une résistance assez forte à la crise. Elle vient chercher à la fois des gens qui comprennent ce que c'est qu'un actionnariat familial, la nécessité à un moment de prendre en compte une dimension patrimoniale dans une stratégie, mais également une volonté de s'ouvrir à de nouveaux outils, de nouvelles perspectives, de s'ouvrir à par exemple une dimension stratégique.
Oui.
Et puis on a des entreprises qui sont des leaders dans leur domaine, alors qui bien évidemment peuvent être également des entreprises familiales, mais là qui vont avoir par exemple une culture de l'acquisition, une culture de l'innovation un peu en chaîne. Ces gens-là, bien évidemment, ils vont vouloir qu'on leur ouvre une perspective, par exemple sur une introduction en bourse, par exemple sur des contacts avec nos cabinets à l'étranger.
Mmh.
Hein, et là, avoir finalement le meilleur de la pratique dans le domaine sur lequel ils intéressent, avec aussi le souci d'avoir un généraliste comme correspondant.
Ouais.
Voilà. voilà. Et tous ces gens-là, finalement, ils ont des interlocuteurs qui leur sont adaptés, qui sont pas forcément les mêmes, qui peuvent être à un moment des interlocuteurs qui connaissent bien ou leur secteur ou finalement le domaine qu'ils viennent voir. Hein, parce que ce sont des gens qui ont travaillé leurs gestes techniques de manière forte et puis qui aiment ça. Voilà, ils viennent les voir pour des raisons très différentes et dans finalement l'univers un peu KPMG, ils arrivent toujours à trouver la bonne personne et l'équipe derrière.
D'accord. Alors ce qui est important, c'est finalement j'entre dans le temple KPMG, je peux m'exprimer ainsi, j'ai 3 ou 4 salariés, je me dis finalement, j'ai pas seulement quelqu'un qui va me sortir mes affreuses fiches de paye insondables et incompréhensibles par le lampiste moyen, mais aussi quelqu'un qui va pouvoir m'accompagner, me donner des conseils, m'ouvrir aussi des portes. On parlait de subventions, on pouvait parler de gens comme Euseo, parce que il y a une myriade d'offres en France, mais la plupart du temps, on est un petit peu désarçonné face à cette masse d'informations qu'on ne sait pas trier ou qu'on ne sait souvent pas aller chercher. Donc ça fait partie des services que vous pouvez rendre à une jeune boîte.
Oui, oui. Alors je crois que la seule chose qu'il faut pas, c'est je récuse un peu le terme de temple, parce que beaucoup de gens qui travaillent chez KPMG ont été eux-mêmes des entrepreneurs ou seront des entrepreneurs. Ouais. Donc il faut pas.
On ne rentre pas en priant, en fait.
Voilà. D'accord. Non, je crois qu'au contraire, on rentre dans une vraie relation en fait de bonhomme à bonhomme. Ça, c'est important. Ouais. C'est aussi pour ça que les gens viennent. Et effectivement, derrière, vous l'avez dit, en fait, les gens, ils recherchent souvent une partie sécurisation, quelle que soit leur taille.
Oui.
Hein, la sécurisation, c'est le fait qu'à un moment, on cherche un commissaire aux comptes, on cherche un expert comptable, on cherche un conseil qui vient à un moment tranquilliser le dirigeant sur un certain nombre de thèmes. Le deuxième point qu'on vient chercher, c'est quand même quelqu'un qui est quand même d'amener de la valeur à son humble niveau, en donnant le bon relais sur la bonne subvention, en relayant sur le ou les interlocuteurs capables d'aider un dirigeant sur un domaine et d'aider au choix, mais qui va quand même permettre de gagner du cash au démarrage et c'est très important.
Ouais.
Et on le sait.
Une question, Nicolas, je vous interromps en même temps. Gros problème qu'on a souvent, alors pour tous ceux qui fréquentent les réseaux de business angel ou d'investisseurs, souvent les jeunes boîtes ne savent pas présenter des états financiers futurs, un business plan qui tienne la route. Ça fait partie des choses que vous pouvez les aider à faire.
Bien évidemment. Alors on va faire deux choses là-dessus. C'est que le dirigeant, il a à la fois besoin qu'on l'aide à mettre en forme son business plan, à lui poser les questions souvent un peu dérangeantes, et ça fait partie de notre rôle, parce que toutes les questions dérangeantes qu'on a posées en amont, il les aura pas, en tout cas il les aura préparées après. En revanche, on peut aussi l'aider à communiquer sur son business plan, parce que ce ne sera jamais nous qui défendrons un business plan, c'est toujours lui, et l'aider à préparer, l'aider à exposer son business plan, l'aider à argumenter autour de ce business plan, c'est souvent un travail encore plus important que la formalisation que lui a en lui-même, d'un projet qu'il porte.
Bien sûr. Donc finalement, dans un business plan, il y a un petit peu, il y a sa structure, il y a le fait qu'il soit cohérent, que les chiffres annoncés tiennent à peu près la route, chose qu'on voit dans une myriade de judéries. Puis il y a la matière elle-même. C'est-à-dire finalement, si moi je travaille demain chez KPMG, je suis pas forcément capable de juger tous les secteurs d'activité, mais c'est là où on tombe sur une branche intéressante chez vous, c'est que du coup vous allez décortiquer aussi tout un tas de business models, d'études françaises ou européennes. Donc vous essayez de donner aussi de la matière, de l'étude, du comparatif à une boîte qui vient et lui dire, sur ton secteur d'activité, même si moi je travaille depuis 10 ans chez KPMG et que je suis là sur du conseil, je suis pas forcément spontanément ou systématiquement entrepreneur, je suis quand même capable d'amener de la matière sur ton secteur d'activité.
Voilà, je pense que ce qui est important, c'est que par rapport à un dirigeant, ça peut être aussi de relativiser certaines questions. Le premier business plan qu'on fait, ce sont pas les chiffres l'important. Tout le monde le sait, c'est la matière, c'est effectivement le business model. Et le business model, il est plus important que le plan d'affaires au démarrage.
C'est clair.
En revanche, au fur et à mesure, on vit pas quand on est entrepreneur avec un business model. On vit bien avec du cash. Et là, derrière, c'est d'être assez implacable sur la rigueur qu'il faut développer très régulièrement, très rapidement, de telle manière à générer les euros qu'on a promis de générer. Parce que c'est pas uniquement important pour les actionnaires, c'est également très très important pour vivre tous les jours.
Voilà.
Payer ses premiers salariés et financer son développement.
Alors, au niveau des études, justement, est-ce que quand on est une jeune boîte et qu'on est client de chez KPMG, on a accès à ces études? Ça fait partie des informations, de la manne d'informations à laquelle on peut accéder?
Oui, tout à fait. Il faut savoir que KPMG a à développer pas mal d'études. Il y a à la fois des études sectorielles pour des structures qui sont dans certains secteurs d'activité. Alors, je pense au bâtiment, la pharmacie, le secteur des TPE a développé depuis de longues dates des études sectorielles qui sont très importantes. On développe également une étude depuis une trentaine d'années sur l'hôtellerie. Et donc ça, ce qui permet d'avoir des repères annuels, catégorie d'établissement par catégorie d'établissement, sur ce qui se pratique en matière de revenus, de coûts. Donc ça, c'est quand même des outils très très importants. Bon, deuxièmement, on a des études, parce que finalement KPMG essaye un peu d'animer aussi, de comprendre l'écosystème des PME, parce que je pense que peut-être que plus qu'ailleurs, on est conscient du fait que on est conscient de la totalité du tissu des entreprises en France, et on sait que on a à la fois un rôle modeste à jouer d'observation de certaines recommandations par rapport à ce qui peut être fait. Et donc, au cours des dernières années, on s'est attaché à produire un certain nombre d'études. D'abord, sur les entreprises familiales. Tout le monde en parle. Finalement, c'est quoi une entreprise familiale? Comment elle se comporte? C'est quoi ses avantages? Quels sont finalement les coûts qu'elle devrait améliorer, qu'elle devrait davantage travailler, hein, si on prend une métaphore un peu tennistique. On a travaillé sur les entreprises qui grandissent.
Oui.
C'est-à-dire les entreprises qui, quel que soit leur secteur d'activité, font durablement mieux que leur secteur d'activité.
Oui.
Et il nous semblait intéressant d'aller voir ces entreprises qui réussissent en France.
Oui.
Parce qu'on est quelquefois un tout petit peu morose. Hein, on a tendance à regarder un peu le mauvais côté de la pièce qui tombe. Et en fait, nous, on a découvert des dirigeants qui avaient finalement un profil assez cohérent,
oui,
tourné à la fois sur le risque, tourné sur l'innovation, et donc des dirigeants terriblement modernes. Et puis, voilà. Et on a toujours de nouveaux territoires,
oui,
à la fois en France et de plus en plus,
oui,
en benchmark avec l'international. Parce que ça aussi, c'est un besoin que on ressent, et c'est un des rôles que nous devons jouer, qui est d'apporter un peu de d'interterritorialité, des études un peu plus transfrontalières.
Trois petites questions, mais du coup avec trois toutes petites réponses. Là, on va monter au filet ensemble puisqu'on va rester sur le tennis. Une chose sur laquelle on aimerait insister vis-à-vis des PME qui nous écoutent aujourd'hui, c'est la permanence du facteur international pour doper une croissance. Est-ce que c'est quelque chose qui ressort de vos études, pousser nos PME à envisager très vite l'international comme un vrai ressort de croissance qui est très manquant en France?
En tout cas, on est convaincus, et les études qu'on a vues sur ce sujet ont montré que dès qu'une entreprise considère que le marché au moins européen est son marché naturel, elle acquiert des réflexes tout à fait solides qui lui permettent à la fois d'envisager une croissance plus pérenne, de dépasser certains éléments peut-être un tout petit peu trop franchouillards dans ses analyses et ses positionnements marketing, et qui lui permettent généralement aussi d'acquérir à la fois des compétences, des ressources humaines et des accès à des marchés,
ouais,
qui génèrent du coup un portefeuille d'activités et qui permettent d'éviter d'être trop dépendant d'un seul
tout
marché.
À fait.
Donc effectivement, on s'est aperçu que toutes les boîtes dont je parlais tout à l'heure, qui réussissent beaucoup plus, beaucoup mieux que leur secteur d'activité, elles sont toutes
à
l'international et durablement à l'international.
Autre question rapide également, c'est tous les jurys qu'on voit aujourd'hui, à 90% on ne reçoit que des projets de e-commerce. Est-ce qu'aujourd'hui KPMG, au national et international, a la sensation que les entrepreneurs français sont tout à coup tournés exclusivement, et les jeunes entrepreneurs même européens, exclusivement vers le e-commerce, ou il y a une porte vers le paradis qui ne passe pas forcément par le e-commerce?
Ouais, écoutez, je pense que le e-commerce, c'est quand même une réalité qui auquel viennent à la fois des entreprises traditionnelles qui sont en train de développer ce territoire là. Moi, j'irai pas jusqu'à ce chiffre de 90% parce que ça reflète pas la réalité des projets que je vois. En revanche, effectivement, aujourd'hui, on va dire que tous les projets, et ça c'est une bonne chose, prennent en compte ce territoire-là.
Oui.
Et donc ça, c'est une vraie nouveauté. Effectivement, parce que ça permet aux gens d'aller quelquefois plus facilement vers certains marchés, de comprendre, de peaufiner leur business model ou leur appréhension des marchés par ce biais-là. Donc ça, c'est pour moi quelque chose d'important.
Oui. Ouais. Alors, passons aux aides de KPMG vers l'univers plutôt des PME en France. Alors vous faites plein de choses, on les citera pas toutes aujourd'hui, mais il y en a deux ou trois qui nous ont particulièrement intéressés. Cette notion de chèque conseil pour les porteurs de projets, on a trouvé ça extrêmement intéressant, quelque chose que j'ai découvert récemment par un projet à l'ESSEC. Le chèque conseil, c'est pas mal ça, ouais. Ça veut dire qu'à un moment donné vous donnez du temps gratuitement pour aider des porteurs de projets, donc ça c'est important pour nos auditeurs, oui.
Tout à fait, bah, et ça fait partie du rôle de KPMG qui est à la fois promoteur de son propre tissu, hein, ouais, nous ne nous cachons pas, mais également une entreprise citoyenne, c'est-à-dire qui pense qu'à un moment elle doit mettre sur la table des choses pour espérer en avoir un jour de manière globale un rendement. Et effectivement, aujourd'hui, on aide un certain nombre de projets suite à un partenariat qu'on a avec ESSEC Ventures. Ouais. Et donc, il y a des projets qui bénéficient du temps d'experts de KPMG pour leur permettre d'aller plus rapidement, pour leur permettre d'avoir un quatrième joueur s'il faut faire un double, de telle manière à aussi être capable de les challenger sur un certain nombre de questions, parce que c'est souvent ça au démarrage, hein, poser un maximum de questions, bien mettre les gens en face des questions qui les attendent, et c'est ce temps-là qu'on prend avec eux.
Deuxième participation avec un réseau qu'on aime tous, qui est celui d'entreprendre. Donc ça, c'est à la fois une envie personnelle et une implication KPMG, le lien entre le réseau Entreprendre et le cabinet.
Ah oui, moi je suis un grand féru du réseau Entreprendre, à la fois par les valeurs qu'il défend, les gens qu'il anime, et aussi par la capacité, parce que c'est quelquefois quelque chose qu'on peut nous reprocher, c'est-à-dire finalement vous vous intéressez, alors au début on nous dit que les grands comptes, puis après quand on dit qu'on travaille pour les PME, que pour les grandes moyennes entreprises. Finalement, non. L'intérêt, c'est la rencontre avec l'entrepreneur, et aussi là aussi, en toute humilité, quelquefois la nécessité de pouvoir passer un relais, d'accompagner des gens à un moment où on sait que poser la bonne question, ça peut leur permettre de rester en vie,
c'est clair,
ou ça peut leur permettre d'aller plus vite, de trouver un positionnement. Donc ça, c'est quelque chose effectivement qui m'enthousiasme.
C'est comme dans le secourisme, les gestes qui sauvent.
Voilà, tout à fait.
Dernier élément qui est important parce que vous vous intéressez beaucoup à la croissance, vous étiez à l'initiative un petit peu avec nos amis de Croissance Plus du Spring Campus, qui est une organisation alors absolument extraordinaire, au-delà du fait qu'elle se situe dans une station tout à fait sympathique. Mais tout à coup, tout le monde quitte Paris, se retrouve enfin en province, dans une belle station, et pendant 3 ou 4 jours, bosse tous ensemble avec des problématiques de boîte de croissance. Donc c'est-à-dire que KPMG, pour nos auditeurs qui sont en pleine croissance, a une vraie connaissance des mécanismes de la croissance.
Oui, en tout cas, on a une passion pour la croissance, parce qu'on pense qu'il n'y a que d'entreprises, que celles qui sont capables de développer effectivement à un moment des mécanismes qui leur permettent à la fois de promouvoir leurs collaborateurs, d'en intégrer d'autres, de faire envie, de se développer, de faire mûrir les gens à l'international. Et effectivement, on a été à l'origine, c'est notre directeur général, à l'origine effectivement d'une idée qui a abouti en partenariat avec Croissance Plus, de ce Spring Campus qui a lieu à Avoria tous les ans. Moi, j'ai eu la chance de participer au premier, et rarement j'ai trouvé une telle atmosphère à la fois studieuse et très ouverte sur les thèmes qui étaient abordés, et puis aussi très sympathique autour de plats très énergiques le soir, mais qui permettait de prolonger la conversation avec des gens formidables.
Bon, alors pour les jeunes entrepreneurs, et en guise de conclusion, la vision, alors j'ai plus envie de dire de cabinet d'expertise comptable, mais de conseil de façon globale du terme, les deux conseils sur les deux défauts les plus classiques du jeune entrepreneur qui arrive face à vous, et si vous deviez en faire un petit résumé, les premiers conseils.
Bon, si j'en ai deux, c'est le premier, vous en avez parlé, c'est être capable de parler de son projet.
Oui.
Parce que de temps en temps, l'enthousiasme étouffe les mots.
Oui.
Et hélas, c'est un vrai défaut.
Oui.
Donc ça, c'est le premier élément. Et puis le deuxième élément, c'est souvent le retour à la réalité. On a tout le monde sait autour de la table qu'on a besoin d'argent quand on est sur les premiers mois, et de temps en temps, les rêves, ils sont importants pour tirer le projet, mais ils n'ont jamais fait un seul chèque, et là-dessus il faut être capable d'aller très concrètement à la vente, à l'encaissement, à la génération du process commercial, et au contraire, c'est tout le métier derrière de l'entrepreneur qui va pouvoir relayer à ses futurs salariés qui se construit à ce moment-là.
Magnifique. Nicolas Baudouin, merci d'être venu nous rejoindre sur We Do Biz, cette passerelle PME que nous animons maintenant tous les 15 jours.
Merci Denis, encore. Merci We Do Biz, et à très bientôt.
À très bientôt. Au revoir.
Au revoir.